Alfred Mbushima au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. La justice en RDC est rendue par les magistrats selon le rang social ou politique qu'occupent les justiciables. C'est ce qui ressort du rapport annuel 2012 que vient de publier ACAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice. Dans ce document, l'ONG relève le mot qui ronge la justice, notamment la corruption, les trafics d'influence, l'absence de l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir exécutif. La CAJ qualifie aussi la justice congolaise de justice privatisée. Radio Okapi vous accorde la parole dans cette émission avec comme question: comment commentez-vous ces rapports? Rejoignez-nous pour votre intervention en direct en composant le 081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 39. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiokapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à Titi Mputu, Berry Franklin, Luchaka et Alengoy pour la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Ces rapports mentionnent que l'Est de la RDC, le droit a laissé place à la loi du plus fort. Et quant à déni de justice et obstruction à l'exécution des décisions judiciaires, le droit à l'égalité des droits est reconnu à tous les citoyens par l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais ce n'est pas ce que nous remarquons sur les terrains, dit ce rapport. Et en troisième lieu, le rapport évoque également l'arrestation ou les arrestations et détentions arbitraires en air violent en toute impunité les garanties légales. Et poursuivant, il évoque également la promotion des magistrats. La procédure suivie ne préserve plus leur indépendance. Quant au cinquième point, il évoque la situation de la province du Nord Kivu. Les armes ont remplacé la justice. Et puis finalement, au point 6, évoquant les aspects sur les violences sexuelles et évasion spectaculaire, les rapports dits les victimes en déplore toujours, et ils ont terminé avec le septième point, meurtre et autres crimes, les auteurs toujours impunis. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous avons en ligne Ghislain Mouéou qui est notre invité, il est magistrat. Monsieur Ghislain, bonjour. Voilà, Ghislain, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne, oui.
Voilà, nous avons là eu à brosser juste le petit tableau de ce rapport de la CAJ qui, au fait, qualifie la justice congolaise d'une justice privatisée. Comment commentez-vous ces rapports?
Oui, bon, je merci d'abord pour m'avoir associé à cette réflexion. Il est vrai que, bon, vous dites bien, il s'agit bien d'un rapport qui essaye de brosser les grandes lignes qui constituent les reproches qu'on fait de la justice en RDC. Il est vrai que le rapport, en essayant de stigmatiser l'impunité, nous disons tout de suite là que l'impunité n'est pas le fait seulement de magistrats. L'impunité prend en considération plusieurs paramètres. Il est vrai aussi qu'il y a un problème qui est réel. La population congolaise, c'est une population déjà en majorité analphabète qui ne connaît pas presque ses droits et ses obligations. La constitution n'ayant pas été suffisamment vulgarisée, surtout en langue nationale, pour permettre à ce que les gens prennent connaissance de ce qui sont les droits et les garanties des citoyens. Alors, il est vrai aussi que les procédures judiciaires sont aussi, ne sont pas très connues. Et au point même qu'il y a une confusion qui naît tout de suite là. Chaque fois qu'on veut parler de la justice, on pense qu'il n'existe pas de justice en RDC ou encore qu'il y a l'impunité, alors que ce n'est pas le cas. Voilà un peu, d'une manière générale, ce que je pourrais dire au stade actuel de mon intervention.
Oui, disons à l'intervention de cette association, il est dit clairement que la justice à RDC est rendue par les magistrats selon le rang social ou politique qu'occupent les justiciables.
Je ne pense pas que ce soit ça. Ça peut être tout simplement une conception que je ne voudrais pas taxer d'erroné, parce que n'a pas de cas concrets qui justifie que la justice est rendue de cette manière-là. Mais ce qui est vrai, c'est que déjà les problèmes de procédure judiciaire et la maîtrise de toutes ces notions là-bas n'étant pas connues de la population, il est vrai toujours. Vous comprendrez aussi avec moi que chaque fois qu'il y a une décision judiciaire qui est rendue, il y a toujours un perdant. Et il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Et si la procédure a été mal initiée, on peut toujours croire que les magistrats ont été corrompus, alors que les magistrats n'ont fait qu'observer les règles qui peuvent être les règles de procédure. Or, ces règles de procédure, comme on dit toujours que la forme est la fille unique du fond. Avant peut-être qu'on puisse aborder le fond, on peut se limiter tout simplement à la procédure. Et en se limitant à la procédure, ça peut être mal comprise et on peut toujours traiter la justice congolaise de la manière qu'on veut la traiter. Mais je suis d'avis avec vous qu'il peut y avoir des égarements, il peut y avoir des cas qui nécessitent à ce que chacun de nous puisse interpeller sa conscience et que ces cas-là ne peuvent pas d'emblée nous conduire d'office à dire que la justice congolaise est corrompue.
Voilà, parce que vous parlez des cas, c'est vrai, bon, il y a quand même, par rapport à ce rapport, il y a plusieurs cas qui sont cités dans ces rapports, mais nous prenons par exemple un cas, à Lubumbashi. Il est dit ceci dans le rapport, le cas le plus flagrant est celui, donc là il évoque le déni de justice et obstruction à l'exécution des décisions judiciaires. Le cas le plus flagrant est celui de l'obstruction faite par le ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation, le ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières du Katanga à l'exécution de la décision de la Cour suprême de justice dans les dossiers Parc Hôtel à Lubumbashi. Voilà donc un cas qui est porté sur la place publique, par exemple.
Oui. Bon, si nous prenons ce cas-là, lorsque vous prenez la Constitution, vous allez voir dans ces dispositions, je me permets peut-être d'oublier, moi qui ma mémoire, de continuer à m'être fidèle, je vais, avant qu'on termine l'émission, vous dire ce qu'est la disposition. Je sais au moins que l'immixion dans l'exécution des décisions judiciaires est interdite par la Constitution. Et ce qui fait que si ce ministre doit avoir agi de cette manière-là, nous pouvons considérer tout simplement qu'il a violé une disposition constitutionnelle. S'il a violé une disposition constitutionnelle, il est que ces rapports puissent servir de cadre pour qu'on considère que c'est une dénonciation et que si c'est une dénonciation, on n'a qu'à le fait étant dénoncé, on peut procéder, il peut y avoir des enquêtes qui peuvent être menées pour que nous puissions tous nous rassurer si réellement cela a été fait, c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Mais je sais que personne. C'est comme on dit, la justice est rendue, c'est une disposition conditionnelle, la justice est rendue au nom du peuple congolais et les jugements sont exécutés au nom du président de la République. Donc ce qui fait que personne n'a le droit de s'immixer dans l'exécution d'un jugement. Il n'y a que seules les voies de recours qui peuvent faire, si la loi prévoit que les voies de recours aient un effet suspensif, hein, on peut, si les voies de recours peuvent agir. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, personne ne peut s'immiscer dans l'exécution d'un jugement. La Constitution est formelle quant à ça.
Oui, mais les rapports évoquent également des cas des arrestations et détentions arbitraires où ils mentionnent l'ANR qui viole en toute impunité les garanties légales. Et parmi des cas cités par rapport à ces chapitres, il est mentionné un cas, par exemple, d'une dame, Madame Odia Diakralenga Célestine, qui est militante.
Je suis en train de faire l'émission.
Voilà, Monsieur Gislain, vous êtes vraiment en direct, hein. Voilà, un cas de cette dame qui milite dans un parti politique. Elle avait été retrouvée abandonnée en Djili au quartier 1 en milieu de la nuit. Donc évoque là un cas des arrestations et détentions arbitraires ou parfois des cas qui sont exécutés par l'ANR.
Oui, j'étais en train de dire ceci. Lorsque vous prenez la Constitution, il sera, vous vous rappellerez que quand vous prenez peut-être, je crois, si c'est pas l'article 17 ou... l'article 19, vous trouverez qu'il est dit ceci, que toute personne bénéficie de présomptions d'innocence. Et que, à tous les niveaux, même devant les services de sécurité, cette personne doit être assistée. Il est dit aussi que personne ne peut être détenu d'une manière fantaisiste. Et que la détention, parce que quand on parle des arrestations arbitraires, je ne sais pas dans quel contexte vous voulez les situer. Mais lorsque nous prenons, nous, dans ce qui sont nos obligations, lorsque nous prenons les dispositions légales par rapport à la mise en détention préventive, il est vrai que la liberté est le principe, l'arrestation est l'exception, mais retenez que cette détention, lorsque elle réunit les conditions de l'article 27 du Code d'organisation et compétence et du Code de procédure pénale, la personne peut être placée en détention préventive. Et cette détention préventive, non seulement elle est autorisée aussi par la Constitution, parce que la Constitution dit que la liberté est le principe et l'arrestation est l'exception. Donc, dès que vous vous trouvez dans les cas prévus par l'article 27 du Code de procédure pénale, on peut vous placer en détention préventive. On n'aurait pas violé la Constitution quant à ça.
Voilà, et nous allons poursuivre avec vous, maître Justin, pardon, Justin Mouéou, vous êtes magistrat. Nous allons accorder la parole à nos auditeurs qui sont déjà en ligne, mais tout en rappelant ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également composer le 081 890 63 15 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocati.net.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Maître Adrien, vous êtes à Kananga et Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Maître Adrien, bonjour.
Bonjour, J.R. Lungembo.
Voilà, vous avez la parole, Maître Adrien. Comment commentez-vous ces rapports publiés par ACAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, disons, qui qualifie la justice congolaise de justice privatisée?
Merci, J.R., pour la parole. Je commence par saluer d'abord le rapport de l'ACAJ. C'est l'un des rapports, à mon humble avis, le plus complet, parce que reprenant les cas précis et des situations précises dans des différentes provinces. De deux, je pense qu'il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas reconnaître un travail d'étudiant abattu par cette association, donc l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ. De trois, je suis surpris et étonné d'entendre le magistrat Justin. Apparemment, c'est comme si il n'est pas congolais, et puis il est trop théorique. Hein, ce qu'il est en train de vous dire là, c'est de la théorie et connue de tous. Mais la pratique, c'est quoi? La pratique, c'est ce que la CAJ a fait. La pratique, ce sont des insuffisances soulevées par la CAJ. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que lorsque vous prenez les rapports là, de la première page jusqu'à la dernière, c'est un rapport qui est vraiment correct. Et je vous donne un cas précis hier, parce que ce cas-là n'est pas répertorié par le rapport. Le cas que j'ai vécu personnellement à Ilebo, qu'est-ce qui s'est passé dans un dossier sur RC668? Une dame du nom d'Angélique Pembe, Nguakale bien évidemment, elle saisit le tribunal de Bédilebo pour les divorces avec son mari, parce que son mari, c'est un commerçant renommé à partir d'Ilebo. Et au moment où le juge se rend compte que le mariage était célébré en famille, non enregistré, et que l'une des parties a sollicité auprès du tribunal pour qu'il suspende d'abord, en attendant qu'on aille donc enregistrer ce mariage-là. Mais le juge, il se donne le luxe, il passe outre, il n'a pas tranché d'abord la question des divorces, il attaque déjà donc la question des biens pour dire que la dame-là n'avait pas droit à ces biens-là. et le jugement est exécuté comme ça. Et vous trouvez ça normal. Et nous, à Gage, nous n'avons pas donc croisé les bras. Nous avons saisi directement le premier président de la cour d'appel de Kananga avec ce jugement-là pour dénoncer. Donc vous allez vous rendre compte que visiblement il y a quelque chose qui s'est glissé par là. Donc le juge n'a pas respecté l'article 380 du code de la famille. Là c'est un cas. Et puis, lorsque j'ai suivi le magistrat Justin, le mec qui le passe d'abord, je ne sais pas d'abord, il est magistrat du siège ou bien il est magistrat du parquet. Mais lisez les différents jugements rendus par nos juridictions. Je ne cible pas les juridictions, mais je suis en train de généraliser. Vous allez vous rendre compte qu'il y a à boire et à manger. Et donc c'est approximatif ou bien à quelques mètres seulement que vous pouvez vous poser des questions si réellement c'est un jugement motivé ou pas. Et tous ces cas-là sont toujours dénoncés. C'est pour cela que nous sommes en train d'insister qu'il se pose un sérieux problème dans ce pays, non seulement
voilà,
de moralité,
maître Adrien,
mais aussi d'impunité.
Oui, maître Adrien, ce rapport, c'est vrai, ça relance encore le débat sur la réforme. Et s'il faudrait qu'on s'engage sur ce chemin-là, ce processus de la réforme, alors quel est le bénéfice, je ne sais pas, l'urgence qu'on doit accorder à ces processus?
Quelles sont
les priorités, par exemple?
Oui, je pense que, sans préjudice de tout ce qui a été invoqué par la CAJE comme solution, il faut encore relever, je demanderai qu'on puisse renforcer le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que cela, donc c'est ça même la plaque tournante. C'est cette instance-là qui pouvait vraiment juguler tous les cas d'impunité. Parce que ce n'est pas vraiment normal. Donc il faut renforcer
une chose est vraie.
Il faut aussi voir aussi. Donc, c'est vrai, je ne refuse pas améliorer les conditions socio-économiques des magistrats. Ça, c'est aussi inévident parce que c'est suite à tous ces problèmes-là,
tu pousses
ces gens-là à faire du n'importe quoi. Et je termine en disant que Maître Adrien, dans cette émission, n'intervient pas en tant qu'avocat, mais en tant que président provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Voilà.
Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé, de vous plaider d'ailleurs pour le renforcement. Il faut renforcer les conseils supérieurs de la magistrature, ça pourrait résoudre tout ce problème. Nous prenons Franck qui est à Vienne, en Autriche. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur Joueur. Bonjour à tous les auditeurs, surtout à l'invité.
Voilà, Maître Adrien qui vous a précédé a salué ces rapports. Il a relevé également un cas qui s'est passé à Ilebo, qui prouve à suffisance que la justice congolaise est privatisée. Et à la fin, il a recommandé qu'on puisse renforcer les conseils supérieurs de la magistrature, qui serait la solution idéale pour résoudre tous ces problèmes. Franck, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. D'abord, à l'intention de notre invité, avec tout le respect que nous lui devons, en sa qualité de juriste, nous pouvons lui rappeler un peu de mots que les bonnes lois à RDC, elles existent, mais nous lui demandons si toutes ces lois sont correctement respectées et appliquées. Je ne sais pas la réponse qu'il pourra donner à de telles questions. Puis, en argumentant comme ça, nous ne nous référons pas seulement aux théories, mais nous nous référons plus au concret. Selon moi, je salue d'abord l'existence de tel rapport. Et s'il faut aussi des réflexions plus loin, nous devons arriver à reconnaître qu'il y a des séries de mots qui rongent le système judiciaire de notre pays à cause de certaines raisons. Il y a d'abord l'existence des inégalités au sein des couches citoyennes. Et il y a des citoyens congolais et aussi certains expatriés, surtout les hommes d'affaires, qui se savent au-dessus des lois congolaises. Ainsi, la justice congolaise semble être privatisée à cause de toutes ces inégalités, surtout quand on sait qu'il y a des citoyens congolais qui ont des rapports directs avec certains décideurs, que ce soit au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, même au sein de l'armée. Donc, quand un Congolais ou bien un homme d'affaires sait qu'il a un ami qui pourrait facilement le protéger en cas d'une situation, il se moque de Congolais. Et quand on entend parfois nos juristes passer sur vos micros dire que tout marche, comme si vraiment il y a aucun problème à reprocher à notre justice, ça doit la passer. Et je dois aussi dire que le problème du Congo ou le problème de la République démocratique du Congo, c'est d'abord le Congolais. C'est la mentalité congolaise, c'est le manque de bonne gouvernance. On nous a parlé de réformes, mais sur le plan concret, on ne sait pas qu'on est en train de réformer. Nous sommes en dehors du pays, mais quand nous venons sur place, nous avons aussi notre manière d'observer ce qui se passe là. Parfois, en descendant en Gilles, vous voyez déjà que vous avez pris le même avion avec des gens, mais quand on arrive en Gilles, vous êtes contrôlés comme un voleur, mais il y en a qui passent. Il est peut-être protégé par tel officier de l'armée, il est armé à telle autorité, donc lui est déjà épargné de tout ce système de contrôle, quoi. Et je crois que c'est dans un pays où la justice ne fonctionne pas, dans un pays où il y a des inégalités au sein de couches citoyennes, dans un pays où il y a des inégalités au niveau de la politique salariale, c'est tout à fait normal que la justice soit privatisée. Donc il y a une justice des hommes forts et il y a une justice des hommes faibles. Même moi qui interviens maintenant, à cause peut-être de ma franchise, de moi je peux me retrouver comme cible de la justice congolaise. Donc ça fait mal d'entendre nos juristes passer Dieu dans des micros de la radio capitale, plus marche convenablement. Nous savons qu'il y a des textes.
Oui, mais oui, Franck, je pense que
nous devons respecter, mais ces textes ne sont pas correctement respectés. Et je crois que nous devons avoir le courage de le dire tout haut que nos lois ne sont pas correctement suivies et appliquées. C'est là notre grand problème.
Voilà, merci beaucoup, Franck. Ben là, je reconnais que notre invité n'a pas dit tout à l'heure que tout va bien au niveau de la justice, mais là, au moins, énoncer quelques, textes, le principe, au fait, sur lesquels, bon, quant à l'application, ça n'est encore un autre problème. Nous verrons toujours avec lui. Merci Franck d'avoir appelé et aussi d'avoir porté cette contribution au cours de cette émission. Théodore, vous êtes à Mbujimaï. Bonjour Théodore.
Bonjour Gérard.
Voilà, vous avez la parole Théodore.
Bonjour, merci pour la parole. Nul n'ignore que la justice ne tourne pas bien en République démocratique du Congo. S'il y a un rapport, pour nous, il faut seulement s'incliner ou se défendre pour faire face à ce rapport. Il est nécessaire que le pouvoir judiciaire soit indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. J'ai l'impression que le gouvernement s'en fout de tout. Chaque fois, il y a des rapports donnés par rapport à d'autres pays. Et les pays qui sont limitrophes de d'autres pays profitent de ces rapports pour améliorer leur système à partir des rapports donnés. En effet, je parle pour la sécurité des personnes et des biens. Chaque jour qui passe ici chez nous en Bougimaï, c'est les balles qui retentissent la nuit, il y a des vols, des tueries. La plupart des brigands sont arrêtés ou relâchés. On défend la population de ne pas avoir l'arme chez soi, chose qui est contre la légitime défense de notre invité pour nous expliquer à partir de cela. Pour la conclusion, à 50 km d'ici chez nous en Bougimaï, un grand opérateur économique a été tué et dépouillé de tout son argent. La population de ces coins demande que la justice soit rendue publiquement et les présumés coupables soient exécutés aux yeux de tous pour en finir avec cette tuerie qui est disséminée dans la province du Kassai-Oriental. Qu'en dit la loi à ce propos, je pose la question à notre invité. Et pour terminer, les numéros de la police pour l'intervention la nuit est communiqué par la voie des ondes. Et au moment où on nous appelle la police arrive pour intervenir à 500 ou 300 mètres. Il arrive avec des klaxons la nuit. Est-ce pour arrêter les voleurs ou les faire fuir davantage? Ce sont des questions que je pose à notre invité.
Merci beaucoup Théodore. Guilain, vous êtes à Bouma, bonjour. Voilà Guilain. Voilà, Guilain, il est temps que la ligne de Guilain puisse se rétablir. Nous allons revenir à vous, à notre invité, et en rappelant à nos auditeurs, vous qui nous rejoignez, composez les 081-890-6315.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Gisèle Mouéou, vous êtes magistrat, vous êtes notre invité, vous avez suivi la première série des auditeurs. Que répondez-vous aux uns et aux autres? Voilà,
je vous suis là.
Oui. Oui, je disais, vous venez de suivre les uns et les autres. Alors, que répondez-vous aux uns et aux autres?
Oui, oui, j'ai suivi l'auditeur de tout à l'heure, surtout celui de Kananga. Hein, je suis d'avis avec lui que le comportement du juge, parce que j'ai suivi, il a dit à Kananga, il s'est fait que le juge, en matière de divorce, lorsque le mariage n'a pas été célébré comme la loi
le mariage n'a pas été enregistré.
Qu'il peut arriver que pendant qu'on est en instance de divorce, si cette question est soulevée par une partie, surtout lorsque le mariage a été célébré en famille, que les juges puissent sursoir. Et sursoir le temps qu'on fasse application de l'article 380 du code de la famille. Hein, et c'est cet article qui est d'habitude l'article d'application en cette matière.
Voilà, je sais, si peut-être je pourrais rappeler rapidement à nos auditeurs les auditeurs qui ont appelé tout à l'heure. Il y a quelques-uns qui ont insisté sur les aspects, en fait on a salué tous les rapports, ils ont demandé qu'à un certain niveau on puisse renforcer le conseil supérieur de la magistrature. Il y a Franck qui a également parlé de lois qui existent et qui en fait ne sont pas appliquées, et il demande à ce qu'on puisse également travailler sur l'équilibre, hein, parce que cette l'inégalité de couche citoyenne, c'est ce qui fait que aujourd'hui la justice soit privatisée. Voilà. Et puis Théodore a évoqué même les problèmes de la sécurisation ou de la sécurité des personnes et de leurs biens. Voilà, avec des cas de la police qui parfois donne des numéros en direct pour le cas de Kananga, et qui en fait au moment de l'exécution cela n'est pas fait comme eux ils entendent. Voilà. Donc tous ces problèmes là seront évoqués, mais les auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre, il y a Guylaine d'abord qui est à Boma, mais nous rappelons aux autres qui aimeraient bien intervenir et de former également le 081, donc poser le 081 890 6315.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontre avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi, Gisela Mouéou. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Il faut parler en tout cas avec le micro. Nous avons suivi Adrien, Franck de Vienne, Théodore et puis Guylain. Bon voilà, donc ils saluent tous les rapports. Les rapports est clair parce qu'il y a des cas avérés, des cas qui sont cités. Je vous ai cité d'ailleurs un des cas qui ce qui s'est passé à Lubumbashi. Alors Adrien, par exemple, parle de. Il propose d'ailleurs une solution. Il dit pour qu'on y arrive, c'est vrai que ça relance les débats sur la réforme, mais il faut travailler, renforcer les conseils supérieurs de la magistrature.
Oui, je partage cet avis avec lui. Vous vous souviendrez que chaque fois que nous parlons de la justice, j'ai toujours soutenu la tenue des états généraux de la justice. Et à ces assises-là, on peut régler certaines questions, parce que le problème de la justice doit être considéré comme un problème national, parce qu'il est dit que la justice élève une nation. Je ne voudrais pas entrer dans le comportement individuel des personnes, tel que le comportement de ce juge, tel qu'il a eu à l'évoquer. Si ce juge a violé les dispositions de la loi par rapport au fait que lorsque le mariage n'a pas été, il a été célébré en famille, il n'a jamais été enregistré. Lorsque une partie qui a saisi le juge estime ou prétend qu'il y a eu réellement mariage et que le mariage doit être enregistré dans les délais qui est prévu, la loi a donné la possibilité à ces personnes-là, lorsque une personne soulève cette question, que le juge puisse sursoir. Et il sursoit, quand il sursoit, c'est à pouvoir statuer quant à ce. Le temps que les parties retourne devant le juge du tribunal de paix sur base de l'article 380 pour obtenir un jugement qui doit ordonner
à l'officier de l'état civil de pouvoir enregistrer ces mariages-là. Voilà, donc ce qui fait que si les juges sont passés outre, c'est un comportement individuel. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que lorsque un comportement est en violation avec la loi, il y a moyen de pouvoir dénoncer ce comportement. Lorsqu'on le dénonce, si cela ne constitue pas une faute disciplinaire dans les chefs du juge, néanmoins, ça pourra constituer, si ça ne constitue pas une faute pénale, mais ça pourra constituer au moins une faute disciplinaire. Mmh. Et si ça constitue une faute disciplinaire, il y a sa hiérarchie. Lorsque la hiérarchie est informée, elle devra prendre des mesures quant à ceci. C'est pour dire que le juge n'est pas à l'abri de poursuite. C'est pour dire que tout comportement, d'ailleurs, quand vous prenez même le statut de magistrat, à son article 46, lorsqu'on parle de la faute disciplinaire du magistrat, on ne cesse de revenir sur le fait que la faute disciplinaire, c'est tout manquement au devoir de son état, à l'honneur et à la dignité.
Mais visiblement, on n'a jamais observé de cas de sanctions de juges ou de personnes censées dire des droits qui tombent sous le coup, par exemple, de déni de justice, comme l'avons évoqué tout à l'heure, et comme l'évoquent les rapports.
Oui, les dénis de justice, si peut-être la population, nos auditeurs peuvent avoir l'occasion de comprendre cette notion, c'est le fait qu'un magistrat se refuse de pouvoir dire le droit alors qu'il avait l'obligation, n'est-ce pas, surtout lorsqu'il s'agit des juges. Et ces comportements-là, non seulement peuvent donner lieu à ce que nous appelons la procédure de prise à partie du magistrat, mais ça peut aussi les soumettre à une sanction disciplinaire.
Mais c'est des cas rares, c'est des
oui,
cas rares.
Oui, ces cas-là, ces cas sont là,
au bout du doigt.
Non, cela veut dire que les faits n'ont jamais été portés à la connaissance.
Alors maintenant que les rapports
portent, oui, les rapports
portent connaissance quand même. Il y en a cité des cas, par exemple, de déni de justice ici. Moi, j'ai les rapports avec moi. Il y a par exemple un cas, comme je venais de le citer là, avec le Lubumbashi. Il y a le cas, il y a encore d'autres cas, le 24 avril 2012. Les huissiers Koulou, donc on évoque des cas de Lubumbashi, on évoque des cas de Nord Kivu. Il y a beaucoup de cas, je crois que ça pourrait aider la matière au procureur.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faudrait qu'on fasse la part des choses, parce que lorsqu'on parle de comportement de huissier, ça n'a rien à voir avec le magistrat. Mm-hmm. Donc les rapports aussi évoquent le comportement d'un huissier. On sait que huissier de justice, il a son chef hiérarchique qui est le greffier divisionnaire, mm-hmm. selon les cas, ou qu'on se retrouve devant la cour d'appel, ou qu'on devant les TGI ou la Cour d'appel ou la Cour suprême de justice. Donc je considère que les faits qui sont dénoncés par rapport au greffier, ce sont des faits qui doivent être de la même manière qu'on a dénoncé dans les rapports. Nous, tout ce qui nous intéresse et ce qui intéresse la population congolaise, c'est que tous les cas dénoncés dans ces rapports, qui sont des cas vécus par les patriotes congolais, ces cas-là doivent faire l'objet, si pas des enquêtes, mais néanmoins, les personnes qui sont réellement coupables de leur comportement par rapport aux faits qui sont dénoncés, ces personnes-là, aujourd'hui, il y a toute une procédure de la saisine même de la chambre disciplinaire. Vous savez que même un des auditeurs, celui qui est le président provincial, à Kananga, il a la possibilité de saisir la chambre disciplinaire par la requête en dénonçant le comportement de ses juges. Et les juges peut être sanctionné sur le plan disciplinaire. Et ça peut même conduire, parce que si on suit très bien et qu'on constate réellement qu'il y a une violation de la loi, ça peut conduire à la révocation de la personne. Et c'est tout que les assises...
Le loup ne se mange pas entre eux.
Non.
C'est ce qu'on entend souvent dans le milieu des magistrats.
J'aurais bien voulu que vous puissiez comprendre aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mmh. À l'époque, peut-être, il n'y avait pas de loi, mais aujourd'hui, il y a tout un arsenal. Et les magistrats n'est pas à l'abri. Que ceux-là qui ne sont pas informés, ils n'ont qu'à aller lire les statuts des magistrats, ils n'ont qu'à lire la procédure disciplinaire, ils vont aujourd'hui constater que, et surtout que pendant ces temps ici, où se tiennent les assises de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, donc si ces cas est porté à la connaissance des autorités judiciaires, je pense, à mon humble avis, s'il y a faute dans les chefs d'un magistrat quelconque, cela fera l'objet de sanctions. Et il peut même être révoqué si jamais on arrivait à établir si la procédure est respectée. Si la procédure est respectée, on peut arriver à ça. Mais si on ne dénonce pas, on se limite tout simplement à utiliser les médias sans pour autant dénoncer les faits. Vous comprenez que les médias n'ont pas, les médias ne sont pas à considérer comme l'autorité disciplinaire du magistrat. Il y a une autorité disciplinaire du magistrat, et en parlant même de renforcement du Conseil supérieur de la magistrature, bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là, mais aujourd'hui, les conseils supérieurs de la magistrature, vous suivez même d'ailleurs, si vous allez vous passer par la Cour suprême de justice, où se tiennent aujourd'hui les assises, nous saluons d'ailleurs l'initiative du premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a accepté cette fois-ci qu'il y ait des observateurs. Et parmi les observateurs, il y a le représentant de chaque syndicat des magistrats, il y a deux représentants de la présidence, deux représentants du gouvernement, il y a les représentants des organismes des partenaires, des ONG, etc. Donc la société civile en soi, quelque soit, elle se retrouve dans les assises comme observateur. Et lorsqu'elle vient comme à titre d'observateur, elle participe au débat.
La crainte des auditeurs, on peut organiser des assises, il y aura des recommandations, mais son application, l'applicabilité sur terrain, c'est ça le...
Oui, je sais que, à moins que je puisse me tromper, mais je vais encore essayer de rappeler ma mémoire. Je sais que les dispositions, il est prévu qu'il y a un timing qui est donné en cas de résolution, et que ces résolutions-là doivent être d'application. Il y a un timing qui doit être donné par la loi portant fonctionnement et organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ces résolutions-là ne peuvent pas rester lettre morte. Nous pensons que cette fois-ci, avec les résolutions qui vont venir de cette Assemblée générale ordinaire, ces résolutions-là seront exécutées dans les termes prévu par les législateurs.
Alors, il y a Guilain qui est à Boma, Ali à Kinshasa et Marcel à Kisangani. On commence avec vous, Guilain. Guilain, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Voilà, Guilain, vous avez la parole.
Oui, je suis Guilain Makala. Je vous appelle depuis Boma, au Bas-Congo. Hein.
Oui.
Moi, je pense que je renchéris sur ce que les autres auditeurs ont dit, surtout ce dont Maître Adrien, je crois, de Canan a parlé. Le grand problème, c'est au niveau de la sanction. Il n'y a pas de sanction contre les magistrats. Il n'y en a pas. Même quand le magistrat qui est là présent au studio veut un peu relativiser les choses, mais il n'y a pas de sanction. Et comme il l'a dit lui-même, les loups ne se mangent pas.
Non, moi, c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi plutôt qui ai prononcé cette phrase. C'est ce qu'on entend souvent dans le milieu des magistrats.
Exactement, c'est ça le principe, monsieur le journaliste. Moi, j'ai un cas, moi. J'étais opposé à mon ancien employeur, la SNV, qui est basée à l'Équateur, à Mandaka, pour un licenciement abusif. On va au tribunal de grande instance de Mandaka. Il faut voir comment le magistrat, le président Tshibangu, a joué avec les dossiers jusqu'à cacher mes pièces. Je porte plainte contre le magistrat, d'abord à la cour d'appel. Pas de réaction. Je vais au parquet général près de la cour d'appel de Mandaka. Je vous dis, depuis 2 ans, une plainte déposée en bonne et due forme, je n'ai jamais été appelé, ne serait-ce que pour m'auditionner. Le magistrat Tshibangu, qui est président de la juridiction de Mandaka au tribunal de grande instance, n'a jamais été interpellé quant à ce. À l'intérieur, les juges sont des petits dieux. Même les avocats ont peur des juges. Qui peut s'approcher des juges? Alors, il ne faut pas que le magistrat qui est là, à vos côtés, puisse dire, il doit accepter qu'il y a des vices au niveau de la magistrature. Les magistrats se prennent comme des dieux, et surtout, les juges. Il faut aller en province. Il faut voir ce qui se passe en province.
Voilà,
qu'est-ce qu'un avocat a dit devant un juge? Et les cas que je vous cite là, vous pouvez vérifier.
Donc, vous évoquez la conflit de compétences.
Un instant.
Oui.
RT 445. Tribunal de grande instance de Mandaka. Vous voyez ce dossier. Le magistrat Tshibangu, je porte plainte contre lui. Jusqu'à le parquet.
Oui, on comprend, Guilain, parce que les vers ne sont pas dans les jugements des Valdo. Il ne faut pas qu'on continue à citer les noms, parce que là, j'ai compris que le RC 445, tribunal de grande instance, c'est le cas que vous évoquez, donc ça nous pousse à dire qu'il y a quand même des problèmes, des conflits de compétences. Hein. Qui doit exécuter quoi, contre qui, bon voilà. Et il y a même Joseph Apollo à Baraka, au sud Kivu, qui nous a écrit en disant le rapport de la CAJ est digne de confiance dans les chefs de tout un chacun, car c'est là la justice au Congo, c'est là la gouvernance au Congo. Non seulement cette justice est caractérisée par la corruption, les trafics d'influence, l'absence de l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir exécutif, mais elle n'est pas aussi professionnelle, ça c'est selon lui, c'est le cas de la justice militaire, auditorat militaire. Ici chez nous à Baraka, disons l'auditorat de la justice militaire se permet de trancher des affaires qui ne relèvent même pas de sa compétence. Un litige qui opposerait un homme à sa femme, un conflit foncier entre deux citoyens, un motard qui roule à grande vitesse, etc., etc. Voilà les dossiers que traite l'auditorat militaire. Voilà, alors on va revenir à vous, Maître Gislain. Nous prenons d'abord Ali qui est à Kinshasa. Ali, bonjour. Oui, Ali, ou on prend Marcel qui est à Kisangani. Marcel. Bonjour, Marcel. Allô, c'est Marcel ? Bonjour, Marcel. Voilà, on a des petits soucis avec la communication, la ligne de Marcel. On prend Galvani qui est à Mbujimayi. Bonjour Galvani.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Voilà, Galvani, vous avez la parole.
D'accord, bon. Concernant l'état de la justice aujourd'hui en RDC, bon, je propose juste que non, on puisse s'éteindre un peu de. Parce que la Constitution prévoit la séparation de trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est-à-dire, moi, je propose ici que non, qu'on cesse de l'immersion du pouvoir exécutif dans le pouvoir
judiciaire.
Ça signifie pas par là. Je veux dire tout simplement que non, la contention de la magistrature est si possible d'enlever que le président de la République n'ait pas une main mise sur ça. Et que le président ne puisse pas commencer à nommer le procureur de la général de la République, ni le membre du conseil de la le membre de la Cour suprême de justice, qui est même là commence à se réunir et qui dit
non,
nous personne
à la tête. Non mais là, non mais Galvani, la constitution, la loi fondamentale est claire là-dessus, donc on ne peut pas faire un débat autour de ça. La loi que nous avons tous votée, et je crois que cette loi définit les attributions, définit le ce que doit faire, en tout cas les attributions des institutions.
Une des propositions que je fais,
oui,
la constitution, elle a été faite par les hommes.
Donc, toi tu demandes assez qu'on puisse revoir le débat aujourd'hui, ce n'est pas la révision de la constitution. Galvani, nous tablons avec les textes qui existent et puis le pays fonctionne avec ça. Merci beaucoup Galvani. Nous prenons Marcel qui est à Kisangani. Marcel, bonjour.
Bonjour Monsieur JR et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole Marcel.
Ok, merci beaucoup. Je crois à bien suivre notre invité. Nous avons comme l'impression qu'il nous donne rien que la théorie générale de la justice, celle qui est prévue par nos lois ou les textes qui régissent cette matière. Alors que dans la pratique, comme l'ont si bien soulevé mes co-intervenants, c'est le contraire. Je parle d'abord, comme vous venez d'en faire mention, des conflits de compétences. Il y a pas mal de conflits de compétences, surtout entre le magistrat du siège et le magistrat debout. Aujourd'hui, les justiciables ne savent pas auprès de qui verser l'argent de la caution, puisque le magistrat debout voudrait assez qu'il perçoive cet argent, et au même moment, ceux du siège voudraient aussi percevoir cet argent, alors qu'en réalité, on pouvait ne fût-ce que préciser les justiciables. Et voyez aujourd'hui, comme notre invité l'avait dit, et le principe c'est la liberté et l'exception c'est la détention préventive. Mais une personne qui voudrait bien avoir sa liberté, qui lui est reconnue par la Constitution, maintenant, puisque faute de ne pas avoir versé l'argent auprès du juge du siège, bien sûr le juge du tribunal de paix, qui doit prendre une ordonnance ou qui est censé prendre une ordonnance de sa mise à liberté provisoire, mais n'avoir pas versé cet argent auprès de ce juge, mais le verse plutôt auprès d'un magistrat du siège, vous allez vous rendre compte que le juge du siège qui doit prendre cette ordonnance-là, n'ayant pas perçu, il en décide autrement. Et ça crée pas mal de confusion dans l'administration même de la justice. Ça, c'est un. Et de deux, aujourd'hui, nous ne savons pas quelles sont les attributions de l'auditorat, de la police judiciaire. Parce que même pour une dette entre les particuliers, le magistrat, justement, pour intimider ces particuliers, et surtout qu'ici, s'il est au courant de sa situation économique, le prend et le met en détention préventive pendant qu'il s'agit là des dossiers civils, il n'y a pas le pénal, mais il le met en détention préventive tout simplement pour l'intimider, obtenir auprès de lui ce qu'il lui faudra. Mais nous comprenons, nous arrivons à comprendre que bon, peut-être, faute de leur situation économique, ils ne sont pas bien traités, bien rémunérés, les moyens mis à leur disposition ne suffisent pas, mais du moins ça devient une pratique, là, une monnaie courante, et qui donne même ce manque de confiance de la part des justiciables vis-à-vis de nos juridictions censées dire les droits, et sachant pertinemment que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles, mais ça tend maintenant vers un organe qui crée des tracasseries ou qui continue plutôt à massacrer la population. Et voilà ce que ça donne les PJR. Voilà,
merci
en
beaucoup.
Tout cas,
merci
j'ai
beaucoup,
salé ce rapport. Mmh. Vraiment, c'est à encourager, mais il faut que le magistrat s'amende.
Tout à fait.
Qu'il soit concerné et ouais. Amélioré pour l'avenir.
C'est quand même une piste pour les magistrats, santé. Pour les procureurs, et aussi de pouvoir. Alors, je sais, Moïou.
Oui, je réagis d'abord en disant que par rapport au dernier intervenant, et qui parlait plus de la liberté, qui est une garantie constitutionnelle, mais il devrait aussi savoir que la liberté provisoire n'est qu'une faveur qu'on accorde. Ce n'est pas un droit. Nulle part dans la Constitution, il est dit que la liberté provisoire était un droit. C'est une faveur. C'est ainsi que la personne qui veut obtenir la liberté provisoire doit solliciter. Et s'il sollicite, cela veut dire la personne, d'ailleurs, les dispositions, l'article 32 du Code de procédure pénale est clair quant à ce, il dit les juges peuvent accorder. Si les juges n'accordent pas, quand vous allez à l'article 33 du Code de procédure pénale, on vous dira que le ministère public peut accorder cette liberté provisoire. Il peut même lever la détention. Il arrive des cas qu'on lève la détention préventive sans accorder la liberté provisoire parce que le motif ayant milité pour la mise en détention préventive ne se justifiant plus. C'est l'article 33 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Le magistrat du parquet peut aussi accorder la liberté provisoire dans les mêmes conditions que le juge peut le faire. Mais lorsque le magistrat du parquet accorde la liberté provisoire, il devra tenir compte de l'aspect au terme de l'article 33 qu'il devra tenir compte que la liberté provisoire qu'il accorde ne produit ses effets. L'ordonnance ne produit ses effets que par rapport à l'ordonnance qui aurait dû ordonner la détention préventive ou proroger cette détention préventive. Donc le magistrat du parquet ne peut pas continuer à garder quelqu'un en détention, en liberté provisoire le temps qu'il pourra vouloir parce qu'il est en détention.
Mais le dernier passage
alors,
de...
Par rapport à la caution, il est vrai que la caution c'est la condition sine qua non pour qu'on accorde la liberté provisoire. Parce que la personne qui sollicite, d'ailleurs j'aurais souhaité que la personne qui sollicite, pour éviter toutes les spéculations, pour ceux-là qui veulent solliciter la liberté provisoire, c'est à eux de pouvoir proposer ce dont ils disposent. Parce que c'est une faveur. Qu'ils disent dans leur lettre que voilà, moi je dispose autant d'argent pour payer ma caution.
C'est comme une amende transactionnelle.
Non, la caution c'est une garantie.
Ouais.
C'est une garantie.
Et ça n'a rien à voir avec l'amende.
Oui, d'ailleurs, quand vous prenez la loi sur la DGRAD, vous allez trouver que la caution qui est perçue au niveau des cours et tribunaux est considérée comme une recette judiciaire. Mais par contre, lorsque vous êtes au parquet, cette caution-là qui est perçue au niveau du parquet ne peut pas être considérée comme une recette judiciaire. C'est en quelque sorte une garantie qu'on donne et qui est remboursable. Parce que la caution qui est perçue au niveau du parquet est remboursable. Hein, par contre, lorsque on achète cette liberté provisoire par le truchement du tribunal, on considère par la loi pourtant la loi sur la DGRAD, donc les recettes judiciaires, domaniales et de participation.
Donc à ce niveau, il n'y a pas de conflit.
Il n'y a même pas de conflit là-dessus. Une autre question.
Marcel de Kisangani.
Oui, Marcel de Kisangani, sans pour autant oublier le cas de celui de Mbandaka. Ce n'est pas que je fais l'avocat du diable ou que je viens défendre le magistrat.
Parce que la ministre l'a reconnu.
C'est un problème. Je l'ai toujours dit que le grand problème, c'est que ce qui est. Vous n'allez pas transformer ce qui est noir en blanc. Il y a des problèmes qui sont liés au traitement des magistrats, qui peuvent être une aussi des causes qui peuvent conduire à certains comportements.
Il est vrai aussi que...
Le problème de la promotion des magistrats aussi évoqué dans ces rapports.
On a évoqué...
La procédure suivie ne préserve
non
plus
les indépendances. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le problème de promotion des magistrats, c'est le non-respect tout simplement des statuts des magistrats. Parce qu'il y a des dispositions qui prévoient. Le magistrat, dans les 3 ans, qui n'a pas subi des sanctions, qui n'a rien fait, doit bénéficier d'une promotion. Nous évoquons aussi même la question des annuités par rapport au fait de l'ancienneté, ainsi de suite. Ce sont des choses qui devaient être d'application par rapport au budget. Ce n'est pas pour rien que nous sollicitons que nous ayons notre propre budget ou une dotation budgétaire pour permettre à ce que nous réglons cette question en interne. Et ce sont des choses, des démarches que nous menons en tant que syndicalistes. Nous pouvons y arriver. Mais par rapport aux comportements individuels des magistrats, il peut être du siège, il peut être du parquet. Lorsque son comportement viole non seulement les serments du magistrat, parce que tout magistrat peut être serment.
Il y a des dispositions qui prévoient des sanctions.
Il y a des dispositions qui prévoient des sanctions. Les personnes qui se sentent être victimes, parce qu'on dit que je suis très dans la théorie. Oui, mais je ne peux pas venir parler des choses que moi je n'ai pas vécues. Hein, ça, il faudrait que les auditeurs le sachent. Moi, tout ce que je dis, c'est ce que la loi prévoit. Ceux qui se sentent être victimes du comportement d'un magistrat, je leur rappelle qu'il y a des dispositions légales. Il y a toute une procédure. Les magistrats ne sont pas intouchables, contrairement à ce que les gens pensent. Les magistrats bénéficient tout simplement de ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Il n'est pas intouchable. Et c'est le législateur qui l'a voulu ainsi. Mais on s'est contourné ces privilèges par tout simplement la procédure de flagrance.
Si vous permettez,
et vous le constatez que ce n'est pas seulement les magistrats.
Oui, si vous permettez, on va accorder juste 30 secondes à chacun, aux auditeurs qui nous ont rejoints. Et puis on viendra à vous. Le temps fait défaut. Un sujet très important, mais nous n'avons plus assez de temps. On va revenir. On prend Ali qui est à Kinshasa. Ali, bonjour. Ali, vous êtes avec nous? Voilà, on prend Serge à Mungwalou. Serge, bonjour.
Bonjour, monsieur Gillard, et bonjour aussi à
voilà, rapidement, en 45 secondes, Serge.
Oui, je crois que c'est très bon lorsque nous voyons ce rapport de l'ARCAJ est en train de donner ses impressions. Mais je me dis, est-ce que pas un rapport de trop? Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui ceux qui combattent, par exemple, pour l'amélioration du piment des affaires ou l'adorement des affaires, c'est aussi une très bonne chose. Mais moi, je pense que, M. Gier, pour me résumer, il faut vraiment faire donc une restauration des fonds de la justice elle-même de notre pays. Parce que c'est vrai, lorsque votre invité est en train de donner, ses interventions sur les tribunaux de juridiction et tout concerne, quand ça concerne les magistrats, mais moi je me dis, aujourd'hui, la justice à l'ère du Congo reste qu'une étiquette, parce que dans des coins comme par exemple ici à Mungwalou, il y a les défenseurs des droits de l'homme qui sont là du côté de la population pour défendre la cause des justiciables. Parce qu'il y a des cas vraiment de flagrance qui sont en train d'enregistrer. On attrape des gens, un cas qu'il faut arrêter pour 2-3 jours, il faut directement les mettre dans la prison. Mais donc c'est vraiment un catastrophique, M. Gilles. Je crois qu'on n'a pas assez de temps pour que le développement de
voilà, merci beaucoup.
Tous les domaines puissent vraiment s'ensuivre.
Merci beaucoup, Serge. Et nous terminons avec vous, Simon, que vous êtes à Matadi. Bonjour, Simon. Rapidement, 45 secondes, pour que nous concluions avec notre invité. Oui, allez-y, Simon.
Parole des enseignants du Bas Congo.
Oui.
En fait, nous sommes très contents de ce rapport pour la première fois. Mais ce que nous voulons dire, la justice en République démocratique du Congo, non seulement qu'elle soit faite pour les faibles et que les forts n'y meurent jamais, mais aussi elle est orientée et caractérisée par un clientélisme grave qu'on n'en a jamais eu au monde.
Voilà. Merci beaucoup, Simon, parce que vous n'avez fait qu'appuyer appuyer les rapports. Nous allons conclure avec notre invité. C'est vrai, il y a beaucoup à dire par rapport à ce rapport. Nous n'avons abordé que 4 points. Il reste encore le 3 autres points. Bon, je crois que c'est avec une partie remise. On pourra y revenir très prochainement parce que les rapports parlent non seulement des arrestations et des détentions arbitraires, parlent de la promotion des magistrats. Il y a également les armes ont remplacé la justice dans la province orientale et les violences sexuelles et puis les meurtres et autres crimes. Les auteurs toujours impunis. Bon, on pourrait peut-être aborder ça prochainement, mais en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que ce rapport peut servir de guide pour les procureurs, pour oui, ceux-là qui... voilà.
Je pense que c'est une dénonciation, je vous ai toujours dit.
Parce qu'on a dénoncé, il y a des cas qui sont cités.
Lorsqu'on a dénoncé ces faits, si ce rapport peut être porté à la connaissance des autorités judiciaires, je pense que des sanctions vont s'en suivre. De tous les cas feront l'objet des enquêtes, comme je l'ai dit, et que j'exhorte toujours la population à quelque chose, c'est à la dénonciation. Vous savez, il est vrai que nous avons un problème, et le problème, il est national. Ce n'est pas seulement qu'on puisse croire que les magistrats n'est pas un extraterrestre. Hein. Les magistrats, il n'est un être humain. Mais comme je l'ai toujours dit, les magistrats, c'est la femme du César. Et la femme du César, et des Césars considérés comme le pouvoir, la femme du César était à l'abri de certaines sollicitations. Pour mettre les magistrats dans les conditions, et c'est le peuple congolais qui devra le faire. Aujourd'hui, nous avons une autorité budgétaire qui doit savoir que les magistrats doivent avoir un traitement digne de son rang, parce qu'un métier noble. Il faut que les députés, l'autorité budgétaire, sache mettre dans chaque budget, disposer des moyens pour la justice.
Mais le fait que parce Madame la ministre a accepté qu'effectivement il y a des problèmes à la justice, mais comment sortir de cela?
Mais il n'y a que l'autorité
accepter,
budgétaire.
Accepter, c'est une chose.
Donc accepter, c'est une bonne chose. Mais il n'y a que l'autorité budgétaire qui devra aujourd'hui pallier à cette situation. Il est vrai qu'aujourd'hui, les cas isolés, les comportements isolés des magistrats, qu'on peut considérer comme les magistrats pouvant faire l'objet de poursuites judiciaires ou de poursuites disciplinaires, sont à prendre en considération lorsque c'est dénoncé. Mais lorsqu'on ne dénonce pas, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui qu'on entre dans ces partages de responsabilités collectives. Mm-hmm. La responsabilité en cette matière ne doit pas être collective. La responsabilité est individuelle. Chacun devra répondre de ses actes. Et que les personnes qu'on a eu à dénoncer, si les faits s'avèrent être vrais, ils feront l'objet, si pas de sanctions disciplinaires, mais des sanctions même judiciaires. Mais je préfère rester dans les principes selon lesquels vous voulez une justice au service de la nation, mettez les moyens à la disposition des magistrats. Mais vous voulez une justice au service des individus, payez mal les magistrats, vous payez les repris. Voilà. Alors, si on veut congolais veut bien que nous ayons une justice, là je l'ai dit en tant que syndicaliste, si le peuple congolais tient à avoir une justice digne d'être appelée justice au service de la population, qu'on prenne en considération tout ce que Madame la ministre a eu à évoquer comme les causes.
Et mais qu'elle organise les États généraux.
Oui, et contiennent, c'est les peuples congolais. Et la réforme qu'on organise les États généraux, et nous arrivons à déterminer les conditions, les mots qui rongent la justice, je crois qu'on aura réglé cette
question. Justin Mouéou, vous êtes magistrat, merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
Ok, merci.
Nous disons également merci à Alain Goy et à Béry Kogaluchaga et aussi à Titim Poutou pour la réalisation de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nikon Gaka, et nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro. À très bientôt.